On amorce ce matin une série de dossiers estivaux qu'on va explorer, des thématiques dont on entend parler, mais qu'on prend pas nécessairement le temps justement de voir en profondeur, de bien saisir les tenants et les aboutissants. Et j'avais l'impression que c'était peut-être un peu le cas. La question de l'aide sociale, on en parle beaucoup, mais qu'est-ce que c'est réellement? Comment ça fonctionne vraiment? Qui sont les prestataires? Bref, un portrait général de ce dossier-là qu'on va vous dresser ce matin. Et pour le dresser en notre compagnie, j'ai convié des militantes de l'organisme Rose du Nord. Alors, Marie-Ève Duchesne, bonjour.
Bonjour.
Rachel Lacasse, bonjour.
Bonjour.
Alors, peut-être pour commencer, on va bien situer un peu l'organisme Rose du Nord face à la thématique de l'aide sociale pour en même temps bien voir un peu votre rôle, vos préoccupations face à tout ça. Alors, qu'est-ce que c'est Rose du Nord?
Alors, Rose du Nord, ça veut dire le regroupement des femmes sans emploi du Nord de Québec. Ça fait 25 ans déjà qu'on existe, Rose du Nord. C'est vraiment un groupe de défense de droits pour les femmes à cité sociale. Puis, on lutte beaucoup pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Donc, au quotidien, il y a des femmes qui viennent s'impliquer à Rose du Nord. On a différents comités de travail où c'est possible de vivre leur implication militante. Puis, il y a Rachel avec moi qui s'implique à Rose du Nord, qui pourra peut-être nous dire qu'est-ce que ça lui apporte.
Rose du Nord, pour moi, me permet de briser mon isolement. C'est important de pouvoir se regrouper entre femmes. On échange sur notre vécu. On se comprend. La lutte que l'on fait est importante pour faire valoir nos droits et nous défendre. Il faut prouver au gouvernement qu'on existe et qu'il y a des groupes communautaires qui existent pour nous défendre.
Et bien entendu, on en vient aussi à l'aide sociale. C'est un des dossiers dont Rose du Nord se préoccupe tout particulièrement. L'aide sociale, donc, qui est née via la loi sur l'aide sociale. Alors, qu'est-ce qu'un peu cette loi-là et dans quel contexte là, on l'avait mis de l'avant?
Ben, si on recule en 1969, c'est là que la première loi d'aide sociale est née. En fait, avant tout ça, il n'existait aucun programme, là, aucune loi qui régissait ça. On avait, par exemple, certains petits programmes, par exemple, pour les mères nécessiteuses, donc les femmes qui devenaient veuves. Il y avait une petite aide gouvernementale. Finalement, dans les années 69, on a décidé de se dire, de se doter au Québec d'un filet de sécurité sociale, de dire tout le monde a droit à une certaine protection parce qu'on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Donc, la première loi est née. Cette loi-là était quand même... reconnaissait le droit à l'aide sociale. Donc, tout le monde y avait droit, peu importe notre condition. Il y avait les moins de 30 ans qui vivaient une certaine discrimination, mais sinon, dans l'ensemble des personnes plus de 30 ans, c'était plutôt égal pour tout le monde. Avec le temps, avec les différentes réformes, la réforme de 88, la réforme de 98, puis la dernière réforme qu'on a eue en 2005, tout ce qu'on a vu apparaître, c'est des catégories. Donc là, on divise beaucoup les gens selon leur aptitude à l'emploi. Donc, on a vu les soutiens financiers, les aptes. On a vu apparaître les sans contraintes, contraintes temporaires, contraintes sévères. Et aujourd'hui, ces personnes-là se retrouvent dans différents programmes. Donc, le programme aide sociale pour les personnes sans contraintes et contraintes temporaires et le programme solidarité sociale pour les personnes qu'on considère ayant des contraintes sévères à l'emploi.
Donc, quand on parle de contraintes, justement, peut-être pour distinguer un peu ces catégories-là, puisqu'on est sur ce thème-là, alors, c'est quoi un peu qui vient distinguer, qui amène quelqu'un, dans le fond, à se retrouver dans une catégorie ou dans une autre catégorie?
C'est parfois un peu aléatoire, je vous dirais. Il existe, par exemple, pour le programme Solidarité sociale, pour les personnes qu'on considère comme ayant des contraintes sévères à l'emploi, il existe une liste de maladies, de diagnostics évidents qu'on appelle. Donc, si on a le bon diagnostic, si le médecin écrit la bonne chose sur le formulaire et que ce diagnostic-là se retrouve dans la liste du gouvernement, ça se fait automatiquement.
Sinon, il faut quelques exemples peut-être de diagnostics, justement?
Bon, mon Dieu, tout ce qui est, par exemple, en santé mentale, des diagnostics de schizophrénie, bipolarité.
Oui, dépression.
Dépression, il faut que ça soit très, très sévère. Sinon, très sévère. À ce moment-là, ça devient plus temporaire. Mm-hmm. Pour les maladies, on a par exemple les cancers, les paraplégies, les choses comme ça.
Donc, tout ça est considéré comme des gens qui sont avec contrainte. Et ceux qui n'ont pas ces maladies-là, dans le fond, se retrouvent plutôt dans la catégorie sans contrainte.
Sans contrainte. Ou entre les deux, il existe la contrainte temporaire qu'il faut prouver à tous les 3, 4, 5 mois, tout dépendant. La contrainte temporaire va s'adresser, par exemple, aux personnes de 55 ans et plus, même si l'âge n'a rien de temporaire. On va le retrouver pour les personnes qui ont des, les femmes surtout qui ont des enfants de 5 ans et moins, ou qui ont un enfant handicapé. Là, à ce moment-là, l'âge ne compte plus. Les maladies temporaires, comme Rachel disait tantôt, une dépression, je me suis cassé les deux bras, je me suis cassé les deux jambes, des choses comme ça. Puis, ben, pour les contraintes temporaires, c'est le genre de choses-là qu'on retrouve dans, dans cette liste-là. Et sinon, on, si notre maladie ou si on n'a pas fait la demande, automatiquement, on va se retrouver dans les 100 contraintes à l'emploi.
Et peut-être pour revenir un peu en arrière, on parle d'aide sociale, bien entendu. Quelles sont un peu les conditions d'accès? Donc, comment on peut se retrouver, justement, sur le régime d'assistance sociale?
Mon Dieu, il y a pas de parcours évident là. Ça peut arriver à tout le monde. Je pense que ça, il y a pas une personne qui est à l'abri de l'aide sociale dans sa vie. Pour entrer à l'aide sociale, faut comprendre que le gouvernement, lui, voit ça maintenant. On a perdu la notion de droit à l'aide sociale. L'aide sociale n'est plus un droit, c'est une aide de dernier recours. Donc, quand on se présente à l'aide sociale, si j'ai travaillé. Par exemple, je travaillais, ça fait 3 mois, j'ai travaillé pendant 3 mois, puis là, je me retrouve sans emploi, on m'a mis à la porte. Ben, l'aide sociale va m'exiger d'aller faire une demande de chômage. Mm-hmm. Même si je sais que j'ai pas le nombre d'heures, même si je sais que j'ai pas accès,
on m'oblige. L'ordre des choses.
C'est ça. Ouais. On m'oblige. Si j'ai des enfants, que je suis monoparentale, on va m'obliger à aller chercher une pension alimentaire. Si j'ai 60 ans et plus, entre 60 et 65 ans, 65 ans, on n'est plus sur l'aide sociale, mais si j'ai 60 ans, automatiquement, on va m'obliger à aller chercher ma régie des rentes du Québec. Mmh. Donc, toutes les sources de revenus. S'il y a des gens qui me doivent de l'argent, on va m'obliger à aller chercher cet argent-là.
Donc, dans le fond, c'est le dernier recours. Une fois que toutes les possibilités ont été explorées,
c'est ça.
Ben là, on dit, OK, il n'y a plus d'autres options, donc tomber dans le filet, au bout
du compte. Exact.
Et les gens qui se retrouvent, ce que tu disais, Marie-Ève Duchesne, que il y avait pas nécessairement un portrait précis de parcours de personnes, c'est un peu tout le monde. Donc, si on en dresse un portrait, justement, c'est qui un peu les assistés sociaux? Parce qu'on a tendance, des fois, à avoir une image peut-être qui est pas nécessairement adéquate dans l'esprit non plus.
Ben, ce sont des personnes qui, autant qu'ils peuvent être peu scolarisées, donc ce qui entraîne souvent des contraintes à l'emploi, autant que ça peut être des personnes qui ont des bacs universitaires, autant que ça peut être des personnes qui, c'est ça, ont travaillé toute leur vie, l'usine ferme, se retrouvent au chômage, puis après le chômage, il n'y a plus rien parce qu'à un certain âge, ça devient plus difficile de se trouver un emploi. Autant ce sont... on entend beaucoup, j'aimerais faire une parenthèse peut-être sur les jeunes, parce qu'on entend beaucoup de préjugés sur les jeunes. Puis oui, il y a des jeunes à l'aide sociale, mais c'est aussi chez les jeunes où est-ce qu'on voit le plus de roulement. Donc, il y a beaucoup toujours... à peu près le même chiffre de jeunes qui se retrouvent à l'aide sociale, mais c'est pas les mêmes. Donc, c'est une transition entre l'école puis une job, une transition entre une job puis une autre. Fait que c'est à peu près ça, la réalité des jeunes aussi.
Et dans tout ça, qu'est-ce qui peut amener aussi le retrait des prestations? Donc, bien entendu, éventuellement, la personne va se retrouver un emploi si elle n'a pas nécessairement de contraintes, justement, soit sous contrainte temporaire ou sans contrainte. On imagine qu'à terme, elle va retrouver un emploi. Sinon, est-ce qu'elle peut se faire retirer aussi ses prestations par d'autres moyens?
Oui, aussitôt qu'il y aura une entrée d'argent, par exemple un héritage, un gain à la loterie ou je sais pas trop quoi, aussitôt qu'il y aura un gain de plus, tout dépendant des personnes, là, si on est sans contrainte ou contrainte sévère, mais prenons une personne sans contrainte à l'emploi qui reçoit une prestation de 564 $ par mois. Si elle reçoit un héritage et qu'au dernier jour du mois, il lui reste plus que 1 500 $, elle débarque automatiquement de l'aide sociale.
Ça, on dit, dans le fond, vous avez un autre filet, vous n'avez plus besoin du dernier recours.
Exactement.
Et dans tout ça, un peu, c'est il y a toujours des questions, en fait, aussi, peut-être au niveau de la notion de vie maritale. On peut s'imaginer qu'il y a des gens qui peuvent se retrouver en colocation. On n'est pas toujours deux gars, deux filles. Mmh. Donc, est-ce que ça peut amener aussi des problèmes? Parce que je me dis, des fois, j'ai des gens qui se sont retrouvés, par exemple, conjoints de fait inopinément. Ben, est-ce que ça peut arriver aussi à l'aide sociale?
Exact. C'est quelque chose d'assez fréquent aussi. Puis, dans le fond, on entend aussi beaucoup de préjugés de dire, il reste pas ensemble pour avoir deux chèques puis tout ça, mais l'aide sociale ne nous permet pas d'être en amour. Ça prend 3 critères pour être considéré comme un couple à l'aide sociale. Donc, ça prend 12 mois de cohabitation. premier critère très normal. Ça prend un autre critère qui s'appelle le secours mutuel. Donc, on se rend des services l'un l'autre. On a un compte conjoint où on paye des factures ensemble, où on se rend des petits services au quotidien. Et il y a un troisième critère qui s'appelle la commune renommée, c'est-à-dire ce qu'en pensent les autres. Je vais voir mon voisin, mon ami, ma mère, mon père, puis ils disent « Madame, monsieur est en couple avec un tel ou une telle ». Donc ça, c'est les trois critères, sauf que les deux premiers seulement sont nécessaires pour ouvrir une enquête, ce qui fait que se rendre des services puis 12 mois de cohabitation, ça peut être des colocs. Il n'y a pas de différence vraiment. Puis c'est vraiment avec la commune renommée, ce qu'en pensent les autres, que là, on voit une différence là pour ces gens-là. Fait que ça arrive qu'on marie des colocs. Puis ce que ça fait, c'est... Puis si, admettons, on était vraiment un couple, deux personnes à l'aide sociale qui s'aiment, qui vivent ensemble, bien à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on voit ça aussi? C'est que le montant du chèque ne sera pas doublé. Donc, les deux personnes qui sont sans contrainte, par exemple, exactement, ne reçoivent pas 564 fois 2. Elles vont recevoir environ le 850 pour les deux.
Donc, on dit, dans le fond, vous êtes en couple, vous vous aidez, donc ça coûte moins cher, dans le fond, pour avoir les besoins minimales de remplir.
Exactement. Alors que, bon, oui, le loyer, on le sépare à deux, là, mais l'épicerie va coûter le double, exact, l'électricité va coûter le double. Il y a des dépenses qui vont...
qui s'enchaînent.
Exactement.
Et peut-être pour se figurer, on parle de 564 par mois. Ça représente combien pour l'année? Je suis pas très bon en mathématiques ce matin.
Oui, moi non plus, mais environ 564 pour une année, ça doit faire en environ de 7 000 $.
Là. C'est ça, pas plus que ça.
Et est-ce que c'est possible d'arriver avec seulement l'aide sociale, avec seulement 564 par mois?
C'est impossible. Ben, je sais pas si Rachel, tu auras envie de... Ouais.
Pour les personnes assistées sociales, cette loi nous fait vivre beaucoup de préjugés de la part de la société. On ne comprend pas qu'il n'y a pas assez d'emplois pour tout le monde. Moi, j'ai la chance d'avoir une personne qui m'aide et j'ai aussi la chance d'avoir un HLM. Mais ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Les personnes assistées sociales qui ont 564 par mois ne peuvent arriver, se nourrir, se loger, se vêtir décemment.
Fait que comme Rachel le disait, c'est sûr qu'avec 564, puis ce qui est un peu insultant avec cette prestation-là, c'est que dans le livre de la loi, on dit que cette prestation-là de 564 par mois doit servir à couvrir 9 besoins essentiels. Le logement, les vêtements, la nourriture, les soins personnels, l'entretien ménager, les transports, les loisirs, les communications. Puis il m'en manque un, mais on voit là qu'il y a quelque chose qui marche pas là. C'est impossible. Donc 564, si on n'a pas de HLM, parce que quand on a la chance d'avoir un HLM, bon, c'est 25% de notre revenu, mais il y a des listes d'attente ça pour les HLM. Donc ça peut prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans.
Moi, ça a pris 14 ans avant que j'en aie un.
Bon, fait que il y a vraiment là un manque là à ce niveau-là. Fait que c'est impossible d'arriver avec cette prestation-là.
Bien entendu, enfin, on parlait de préjugés aussi. Je pense qu'on en entend beaucoup. J'en ai recensé quelques-uns. Peut-être je vous en lancerai voir un peu qu'est-ce que vous en pensez et qu'on puisse faire peut-être un peu la perception en réalité en même temps. Notamment celui qui revient souvent. Les assistés sociaux, c'est des fraudeurs. On a vu notamment qu'il y avait, et c'est sorti dans l'actualité récemment aussi, qu'il y avait peut-être des trop versés qui avaient été donnés par le gouvernement. Donc, ça perpétue un peu l'idée que c'est des fausses déclarations. Les assistés sociaux, c'est un peu des bougons, au bout du compte, là.
Oui, ben très intéressant comme préjugé. En fait, c'est ça. Dernièrement, là, ils nous ont sorti ce chiffre-là, dire il y avait trop d'argent qui était donné aux assistés sociaux, puis que les gens fraudaient et tout ça. Mais il faut faire la différence. L'aide sociale ne fait pas de différence entre je fais une fausse déclaration et je ne savais pas qu'il fallait que je le déclare, parce que c'est une loi qui est extrêmement complexe. Puis, comme nul ne peut ignorer la loi, dans le fond, l'aide sociale se bat un petit peu avec ça. Mais je le savais pas, on rentre dans la fraude. Puis moi, ce que je trouvais intéressant, puis ça a sorti juste une année, en 2006-2007, quand c'était la ministre Michèle Courchesne, était sortie dans les médias pour dire que du montant qui était déclaré, là, à chaque année, ils nous sortent le montant de fraude à l'aide sociale, là, ben, de ce montant-là, il y en avait seulement 13% que c'était vraiment de la fausse déclaration. Ça veut dire que le 87% autre, ben à ce moment-là, c'était juste des erreurs de bonne foi. Je le savais pas ou... par exemple, moi, je donne souvent l'exemple des pensions alimentaires. L'aide sociale ne considère pas les enfants dans le calcul du revenu. C'est-à-dire qu'une femme qui a un enfant puis une femme qui en a pas vont recevoir le même montant d'aide sociale. Donc, la femme, en toute logique, qui reçoit une pension alimentaire pour son enfant, ne le déclarait pas à l'aide sociale, ben, en se disant, il me donne pas d'argent pour mon enfant, c'est les prestations fiscales, c'est les soutiens aux enfants qui viennent compléter mon revenu. Mais, pour l'aide sociale, la pension alimentaire, eux autres, ils le considèrent comme un revenu. Fait qu'ils permettent le premier 100$, puis le reste, ils te le coupent au complet, même s'ils donnent pas de
ça. Ça revient pas à la question de dernier recours. Donc, dès qu'il y a d'autres recours, ça annule un peu l'idée de l'aide sociale parce qu'on nous dit, regardez, il y a d'autres recours, donc.
Donc, à ce moment-là, c'est une logique qui suit parfaitement. Donc, mais ça va rentrer si elle se fait, quand elle se fait prendre, ça rentre dans la fausse déclaration.
Et en parallèle, il y a aussi toute la question, et on le voit beaucoup, ça revient en campagne électorale, notamment c'est revenu en 2008, des gens qui disaient, regardez, faut régler la question de l'aide sociale comme mode de vie. Donc, faut inciter les assistés sociaux à retourner au travail, mais c'est toujours en fait le terme mode de vie qui est utilisé. Et en même temps, c'est une impression qu'on peut comprendre. On voit des gens, des fois, qui sont longtemps à l'aide sociale, des fois, qui peuvent passer leur vie à l'aide sociale. On dit, ben, ils ont choisi de pas travailler, ils ont choisi de vivre au crochet de l'État. Comment on explique un peu ça et comment on regarde un peu aussi des perceptions comme celle-là?
Mais je renverrais presque une question aux gens qui disent ça. Comment est-ce qu'on peut faire le choix de vivre avec 564$ par mois? Puis pour ce qui est du mode de vie, tu sais, quand oui, il y a des gens qui entrent à l'aide sociale qui vont être en parfaite santé. Mais le stress du quotidien, le stress de qu'est-ce que je vais manger demain, le stress psychologique que ça amène, souvent les gens n'en ressortent pas parce qu'ils sont malades.
Ça les rend malades, tout simplement.
Voilà. Fait que c'est pas un mode de vie, c'est pas un choix à l'aide sociale. Moi, je connais personne, puis on en rencontre des personnes assistées sociales là, dans une année, là, mais je connais personne qui me dit, moi, j'aime ça, puis je fais ça, puis c'est tout.
Non.
Fait que je pense qu'à un moment donné, il y a un côté aussi de un peu de réaction, à force de se faire dire que t'es paresseuse, que tu vaux rien, que t'avais juste à te trouver une job, puis là tu te trouves une job, puis ça marche pas, puis tu vas porter tes CV, puis là plus le temps passe, plus t'as un gros trou sur ton CV, puis là plus t'as un gros trou sur ton CV, puis là moins les gens veulent t'engager. Fait qu'à un moment donné, tu finis par te dire bon ben de la merde, je reste chez nous, puis je veux plus rien savoir du monde. Fait que c'est beaucoup d'isolement aussi que ces gens-là vont vivre parce que à force de se faire taper dessus, puis le regard qu'on pose chez les personnes assistées sociales, c'est pas quelque chose qui est c'est pas quelque chose qui est positif là. Habituellement là, les préjugés sont très très forts. Fait que je pense que c'est un peu aussi une certaine réaction à ça.
Et il y a des gens, et je voyais notamment sur différents sites, qui se disent, ben au contraire, quand on est sur l'aide sociale, on a des avantages. Les médicaments gratuits, les lunettes gratuites, le dentiste gratuit, les garderies gratuites. Alors, on nous dit, au bout du compte, regardez, les gens, plutôt que d'aller travailler à 9$ de l'heure, ils préfèrent être à l'aide sociale et garder ces avantages-là, au bout du compte.
Ben les avantages, oui, c'est très intéressant d'en parler. Bon, on dit le nettoyage gratuit pour les dents, il faut que ça fasse 12 mois consécutifs qu'on est à l'aide sociale pour y avoir droit. Pour ce qui est des lunettes, on nous donne 50$ pour une monture, puis à peu près un maximum là, de 80$ pour les verres. Donc, c'est pas des lunettes gratuites, là. Il y a souvent une bonne marge après qu'il faut payer. Pour ce qui est, par exemple, des prothèses dentaires, des choses comme ça, il faut que ça fasse 24 mois consécutifs qu'on est à l'aide sociale pour y avoir droit. Et encore là, le montant souvent ne couvre pas tout et on a le droit de le demander une fois par 8 ans.
Donc, c'est pas si gratuit que ça.
Non, c'est pas si gratuit que ça. Puis en même temps, tu sais, il faut reconnaître que oui, il y a les médicaments gratuits, il y a les soins dentaires pas mal gratuits, mais est-ce que les gens pourraient se les payer sinon? Je pense que c'est une question de santé aussi, là.
Oui, puis les médicaments, c'est récent, là.
Oui.
Hein, c'est pas...
C'est vrai. Ce que Rachel amène, c'est que les médicaments gratuits, pour les contraintes sévères à l'emploi, ça l'était depuis plusieurs années. Mais pour les sans contraintes et contraintes temporaires, c'est depuis juillet 2007, si je me trompe pas.
Okay. Et en parallèle, il y a des éléments aussi qui sont amenés, des gens qui disent, regardez, on est sur l'aide sociale, on vit au crochet de l'État, donc on contribue pas au développement de la société québécoise?
Ben, si on mettait en grève toutes les personnes à cité sociale aujourd'hui, je pense qu'il y aurait quelques comptoirs alimentaires, quelques hôpitaux, quelques milieux de notre quotidien où est-ce que ces personnes-là s'impliquent, sont bénévoles, qui en souffriraient grandement. Je pense aussi aux femmes qui élèvent leurs enfants. Pour moi, c'est une contribution à la société. Aux personnes à cité sociale qui s'occupent d'un parent âgé, c'est une contribution à la société. Donc, toutes ces contributions-là, puis les contributions monétaires, quand on paie des taxes sur les produits qu'on achète, ces personnes-là à cité sociale en paient aussi. Donc, pour moi, c'est une forme de contribution aux moyens qu'ils ont. Ils gagnent 7 000 par année. Là. C'est sûr qu'ils ne peuvent pas payer d'impôts comme nous.
Donc, en fait, les gens ne sont pas assis sur le divan. Il y a des gens qui font du bénévolat. Il y a de l'aide. Les gens travaillent même s'ils n'ont pas d'emploi.
Oui, exactement. Mais c'est ce qu'on appelle du travail invisible. Donc, c'est du travail qui n'est pas reconnu et pour lequel on n'a pas de paie une fois par semaine le jeudi. Puis aussi, juste avoir une prestation de 564 par mois, on n'a pas le choix de se mettre en action parce qu'il faut trouver comment manger. Il faut courir les banques alimentaires. Il faut courir les comptoirs vestimentaires pour habiller le petit dernier. Il y a plein de tâches qui découlent de cette pauvreté-là. Là.
Et peut-être dernière idée aussi qui ressort beaucoup des médias, Rachel Lacasse, Marie-Ève Duchesne, c'est l'idée d'une limite de temps pour l'aide sociale pour les gens qui sont sans contrainte. Donc de dire, ben, regardez, après 2 ans, 3 ans, 4 ans, trouvez-vous une job ou arrangez-vous, là.
Oui. Puis ça, je pense que comme société, on se tirerait dans le pied parce qu'on viendrait augmenter énormément certains frais que l'on paie présentement. Parce que la pauvreté, c'est à peu près 20 % de nos coûts de santé présentement. Fait que en 5 ans, là, mettons, on limite ça à 5 ans, là. C'est pas vrai que les gens, là, automatiquement vont se trouver un emploi puis c'est une question de volonté de leur part. Comme Rachel le disait, il n'y a pas de l'emploi pour tout le monde. Ou il y a de l'emploi précaire, ou il y a de l'emploi sur appel, ou, tu sais, mais c'est pas avec une job sur appel qu'on arrive. Donc, c'est l'augmentation d'itinérance. Si on compare les États-Unis avec le Canada, le taux d'itinérance n'est pas le même. Augmentation d'itinérance, augmentation des problèmes de santé, de malnutrition, augmentation du taux de pauvreté chez les enfants. Donc, c'est ça qui nous attend.
Et le défi, bien entendu, c'est toujours aussi de ramener les gens à l'emploi. Je pense qu'on s'entend là-dessus. Peut-être en terminant, quelles seraient les options, justement, pour vous, pour dire, ben regardez, on va aider ces gens-là à retrouver le chemin vers l'emploi. Comment on devrait s'y prendre?
Ben principalement en reconnaissant que l'aide sociale, c'est un droit et non un privilège qu'on offre à ces personnes-là. Comme société, je pense qu'on peut se dire que l'aide sociale, on se donne le droit d'avoir à ça parce qu'on sait jamais ce qui peut nous attendre dans une vie. Donc, c'est pas juste ces personnes-là à qui j'offre une protection, c'est à moi aussi pour le futur, puis c'est à mes enfants que j'offre cette protection-là. C'est sûr que les prestations de 564 $, ce n'est pas suffisant. Même la plus élevée, celle des contraintes sévères à l'emploi de 858 $ par mois, n'est pas suffisante. Donc, une hausse substantielle des prestations d'aide sociale, je crois que c'est nécessaire. Et pour nous, présentement, on est en campagne pour abolir les catégories à l'aide sociale. Donc, oui, une hausse substantielle des prestations d'aide sociale, mais aussi tout le monde au même montant. Hein, arrêtons de dire « toi, tu le mérites, toi, tu le mérites pas », parce qu'il y a plein de zones grises. Il y a plein de personnes pour qui sont malades, par exemple, mais c'est pas reconnu, qui se retrouvent sans contrainte, etc., etc. Donc, la même protection pour tout le monde.
Et en terminant, il y a une pétition aussi sur qui court autour justement de ces revendications-là?
Oui, on est en pétition jusqu'au 17 octobre 2009, donc il y aura aussi sûrement une action d'organiser à l'automne. Vous verrez des gens en action en train de faire signer cette pétition-là. Puis il y aura un dépôt aussi qui sera organisé à l'Assemblée nationale à l'automne, donc on pourra s'en reparler. Mais s'il y a des gens aussi qui ont de l'information à demander, toute question sur l'aide sociale ou concernant la pétition, peuvent nous appeler au 418-622-2620.
Rachel Lacasse, Marie-Ève Duchesne, il nous reste à peu près une minute. Je vous laisserai peut-être la minute justement pour le mot de la fin, 30 secondes à chacune.
Bien, merci beaucoup de cette expérience puis d'avoir pu venir m'exprimer ce matin pour les personnes à cité sociale. Mais il y a beaucoup d'ouvrages à faire et puis il faut se dire que l'aide sociale, là, personne désire d'être là-dessus. Fait que c'est un droit. Et puis, bien coudonc, il faut s'entraider puis s'aider.
On exige ce matin le droit à la citoyenneté pour toutes les personnes à cité sociale.
Marie-Ève Duchesne, Rachel Lacasse, militante donc à l'organisme Rose du Nord, merci à vous deux.
Merci.